Bonjour à tous. Là, en fait, je vais vous parler de questions qui m'ont été posées par Mehdi de Blog Booster, donc en un seul mot, blogbooster.fr. Donc, Mehdi m'a posé des questions. Quels conseils je donnerais en fait à quelqu'un qui veut se lancer dans le blogging, de gagner de l'argent par un blog ou en vendant ses services via le web? Alors, la première chose, en fait, c'est pour moi mon conseil zéro. Déjà, c'est faut pas se dire je vais tenir un blog et gagner de l'argent. En fait, il faut se dire je vais monter un business. Et le blog va être le moyen que je vais utiliser pour attirer des prospects, convertir et vendre mes prestations. C'est une posture qui est véritablement différente parce que quand on se dit je vais tenir un blog, c'est qu'en fait on va créer du contenu. Or, c'est pas du tout ça. La posture est différente. C'est-à-dire qu'on va créer un business. Votre business, c'est pas de produire du contenu, c'est pas de produire un podcast, c'est pas d'écrire des articles, mais de vendre des produits et services et d'en vivre correctement. Ça veut dire en premier, gérer son temps comme un businessman. Time is money. C'est souvent en fait le problème numéro un des créateurs d'entreprise, des freelances. C'est essayer d'être le plus efficace possible à la fois avec son boulot, mais également sa vie perso. Et quand on est tout seul dans son coin, on est libre, certes, mais parfois en fait on a un petit peu de mal comme ça à gérer son efficacité, gérer son temps. Et moi je l'ai constaté aussi, hein. Quand on est dans une grande entreprise, généralement on est pris par des projets, on est pris par ses collègues et on est obligé d'un petit peu de suivre. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans une multinationale à tendance anglo-saxonne et parfois j'avais l'impression d'être en fait comme un rat dans une cage qui tourne, qui tourne, qui tourne, dans une roue qui tourne parce que tout simplement il y avait plein de projets et comme j'étais au centre, de toute façon il n'y avait pas le choix, il y avait 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes qui étaient après moi et donc j'étais obligé de gérer tout ça. Quand on est freelance, c'est différent, on est tout seul, on peut gérer son temps et puis on peut très bien dire tiens, je vais faire ça aujourd'hui, puis le matin on fait ci, on fait ça, on regarde un autre truc, on va sur Facebook et ceci, cela. Et donc en fait, le problème numéro un pour moi, c'est vraiment véritablement de se dire que je vais pas monter un blog, mais que véritablement je vais créer un business et je vais le gérer comme un business. Le deuxième point que j'indique, c'est qu'il ne faut pas bloguer sur une thématique, mais vraiment pour un prospect type. Ça, c'est une erreur que je vois vraiment souvent dans le domaine du blogging. Des gens qui disent, bah ouais, tiens, je vais faire un blog sur la psychologie, je vais faire un blog sur le marketing, je vais faire un blog sur le coaching, etc., etc. Or, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut en fait bloguer pour un prospect type. C'est vraiment une différence, encore une fois, c'est une différence de posture. L'erreur numéro un, c'est vraiment ça, c'est se dire, tiens, je vais monter sur une thématique de web marketing, alors qu'on va jamais pouvoir s'adresser à 100% à une cible, puisque à la fois ça peut être du web marketing pour les TPE, pour les freelances, pour les indépendants, pour les grandes entreprises, et ça sera pas du tout la même chose. Si on fait du web marketing pour des freelances, on parlera plutôt d'actions concrètes. Par contre, si on va cibler les grandes entreprises, on parlera par exemple de stratégie marketing, de médias sociaux, on va utiliser des mots-clés différents. Donc il faut véritablement se dire quelle est ma cible et cibler une catégorie de personnes qui ont un besoin urgent, important, solvable et être en mesure de leur apporter une solution. Donc voilà, il vaut même être à la rigueur très ciblé, se dire voilà, je vais faire un blog sur AdWords ou un blog sur Facebook Ads, je vais faire un blog sur la conversion, je vais faire un blog qui va aider les freelances par exemple à trouver des clients ou je vais aider les entreprises, dans les grandes entreprises, à mettre en place du growking dans leur entreprise. Bref, il faut pas cibler une thématique en général, il faut cibler en fait une cible qui est voilà, je veux être le spécialiste de Google AdWords et je m'adresse en fait à telle entreprise. Et quand on est comme ça, on s'adresse à une cible, qu'on a mis en place éventuellement une méthode des personas, c'est-à-dire qu'on va définir un client type, c'est beaucoup plus simple parce qu'on adressera vraiment son marché avec les bons mots, on fera les bons articles, on choisira les bonnes publicités, les bonnes offres. Et là, c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, tiens, je vais monter un blog pour ceci, je vais monter un blog pour cela, mais c'est pas ça. Il faut en fait se dire, ok, quel est mon prospect type et quelle est la thématique que je vais mettre en face de lui et quelles sont ses peurs, quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, comment je vais le convaincre, etc., etc. Ça, c'est la méthode des personas. D'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard dans ma formation la Star Marketing Academy.com. Mais en fait, dans la Star Marketing Academy, j'ai justement un module là que je vais créer dans pas longtemps qui va expliquer comment mettre en place une méthode des personas parce que c'est vrai que c'est vraiment simple et ça aide vraiment à clarifier ses idées. Le troisième point, c'est tout simplement de se dire que On va pas pouvoir vivre correctement du blogging en vendant des e-books, des formations vidéo low cost ou la publicité AdSense. Ça, bon, heureusement, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à en prendre conscience. Mais en fait, il y avait un mythe, en fait, un mythe qui est venu des États-Unis, qui était que, tout simplement, avec un e-book, avec deux, trois formations vidéo, eh ben, on pouvait gagner sa vie. Or, en fait, c'est un petit peu différent parce que déjà, le marché aux États-Unis et le marché en France n'est pas le même. Le marché anglo-saxon, c'est des millions de personnes. Déjà, si on compare le marché francophone et le marché anglo-saxon, c'est peut-être 5, 10 fois moins. Donc déjà, il y a une question de volume. Et ensuite, il y a une question de maturité. L'achat de produits d'information, d'éducation, c'est quand même assez courant dans le monde anglo-saxon. Et en France, c'est quand même encore au début, la formation continue, etc. Ça reste quand même quelque chose de très théorique. Et bah, il y a beaucoup de gens qui se remettent pas en question, qui se forment pas ou qui achètent pas forcément des bouquins. Or, aux États-Unis, ce fait de se former, s'auto-former, d'acheter des e-books, des formations est beaucoup plus mature parce que le web aussi est beaucoup plus mature là-bas. Voilà. Donc déjà, il faut se dire ça, c'est que le marché est plus petit, mais aussi, et c'est ce qui vient en plus contrecarrer les choses, c'est que en vendant des prestations low cost, ben vous allez pas forcément pouvoir en vivre correctement parce que pour vendre des bouquins à 7, 8, 10, 20 euros, moi j'en ai, hein, ben il faut en vendre des tonnes et des tonnes pour commencer à gagner sa vie. Par exemple, moi mon bouquin sur tout ce qui est écrire du contenu sur le web, c'est un bouquin qui vaut 7 euros TTC. Si vous nous enlevez 20% de TVA, ben ça fait grosso modo, allez, on va dire 1,40 € qui part déjà à l'État. Ensuite là-dedans, ben vous avez la commission que je donne à mes affiliés, qui est à peu près une trentaine de pourcents. Donc voilà, il me reste quoi? 2-3 euros à la fin. Donc sur un bouquin à 7 euros, il vous reste rien du tout. Donc en fait, il faut se dire que c'est pas avec ça que vous allez gagner. Vous devez mettre en place un tunnel en se disant voilà, tiens, j'ai une gamme de produits. Alors j'ai un petit produit peut-être gratuit, un bouquin gratuit, une formation, un audit, un coaching, une série d'emails gratuits, etc., etc. Puis après, j'ai une gamme de produits et il faut que je vende des produits chers à valeur ajoutée. Et souvent, c'est de la prestation de service, c'est-à-dire que je vais vendre par exemple du coaching de la formation ou je vais mixer tout simplement d'information et en plus du coaching. Parce que c'est que grâce à ça, en vendant des produits à forte valeur ajoutée, à forte valeur, que vous allez vraiment gagner d'argent. Voilà. Alors, il faut pas non plus vous dire que vous allez pouvoir vous allez, entre guillemets, arnaquer les gens en vendant des produits chers. Non, il faut faire payer le juste prix. Parce qu'en fait, au départ, vous allez avoir peu de clients. Donc, en fait, il faut pas miser sur du volume, il faut miser sur de la valeur, il faut miser sur de l'accompagnement, de l'aide. Donc, ayez vraiment comme idée, voilà, moi, je vais pas juste faire du low cost, je vais essayer de faire de la valeur, de l'accompagnement. Et je préfère avoir moins de clients, mais les faire payer un peu plus cher et apporter plus de services que se dire, bah, tiens, je vais aller chercher un gros volume. Voilà. Alors le conseil numéro 4, c'est vraiment qu'il est essentiel de commencer le plus tôt possible à créer sa liste de prospects. En effet, il y a beaucoup de gens qui commencent à monter un blog et qui mettent bon un formulaire newsletter et c'est tout. Voilà, c'est fini. Or, en fait, c'est pas comme ça que ça va marcher parce que vous n'allez pas, bien sûr, avec juste un formulaire newsletter, recruter beaucoup de prospects. Vous allez perdre comme ça ce temps au départ, ces quelques mois, ces visiteurs qui viennent sur votre site internet, vous n'allez pas les inciter à vous suivre et à s'abonner et à devenir une partie de votre liste de prospects. Donc, c'est vraiment important de créer les outils, un livre blanc, un guide, comme je le disais, une checklist, etc., etc., pour créer le plus rapidement possible une liste de prospects et pas juste proposer une newsletter, améliorer les conversions, penser en les formulaires aux bons endroits, ça peut être une pop-up, ça peut être un welcome mat, ça peut être un chat, etc., etc. Bref, il est vraiment essentiel d'aller attirer un maximum de prospects au départ, parce que votre liste, elle est cumulative en fait. Ce qui est bien, c'est que l'emailing, c'est vraiment un business cumulatif. Si au début, vous avez par exemple 2-3 emails par jour, et ben, au bout d'un moment, ben, vous allez cumuler de plus en plus de prospects. Vous aurez certes des abonnements, mais au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de monde. Et plus vous aurez de trafic, plus vous aurez de monde. Tandis que le trafic d'un site internet, c'est quelque chose qui est comme relativement constant. Il y a des paliers en fait. Il y a un palier de 20-30 visiteurs, il y a un palier de 100, 200, après, il y a un palier de 150, 500, 1000, 5000, 10 000. Et après, il y a un palier à 12 000, 15 000. Ce sont des paliers en fait. Et en fait, votre trafic va être toujours à peu près stable et vous allez passer des paliers de temps en temps. Tandis que l'email, en fait, c'est cumulatif. Au fil du temps, vous allez avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, c'est vraiment essentiel de proposer un bonus le plus tôt possible commencer à essayer après de monétiser, bien entendu, cette liste. Et on peut gagner de l'argent avec rien qu'une toute petite liste. Hein. Si vous avez 200, 300, 500, 600 prospects, vous pouvez très bien en vivre. Si ce sont des gens qui ont un problème important, que vous leur vendez un coaching, de la formation, et que vous êtes un petit peu unique sur votre marché. Voilà. Alors, le conseil numéro 1 que je donnerais, c'est qu'il faut penser SEO et contenu à valeur ajoutée. Alors, SEO, c'est le référencement naturel, hein, et la valeur ajoutée, c'est créer du vrai contenu. Ok, il faut créer du contenu sur des mots-clés. Ça peut être des textes très simples, hein, quelques centaines de mots, sur les mots-clés les plus tapés dans Google sur votre secteur. Pour ça, vous utilisez Google Keyword Planner qui est à l'intérieur de Google AdWords ou SEMrush, qui est un outil du même style, pour trouver en fait les mots-clés qui sont les plus tapés et recherchés par les internautes, mais également vous allez pouvoir espionner les sites des concurrents et savoir quels sont les mots-clés qui leur rapportent le plus, mais aussi vous allez voir sur vos mots-clés à vous, lesquels vous rapportent du trafic ou pas. Voilà. Donc ça c'est ok, on est tous d'accord là-dessus qu'il faut ces mini-contenus simples à créer pour se positionner rapidement sur des expressions. Mais après, il faut se dire que si vous voulez vraiment bien être positionné dans Google, il faut écrire des articles longs. C'est vraiment les articles de qualité avec de la valeur ajoutée, totalement pas inédits forcément, mais qui sont des références dans leur domaine d'activité, qui vont vous permettre en fait d'être vraiment le leader. Alors c'est minimum pour moi 2500 mots, c'est-à-dire que si on veut vraiment explorer un sujet de A à Z, c'est pas avec 500 mots, c'est pas avec 1000 mots. Si on veut vraiment être efficace, c'est 2500 mots au moins pour explorer un sujet de A à Z et ensuite se dire waouh, j'ai fait le truc le meilleur, voilà. Et ensuite là, vous allez pouvoir en faire la promotion, vous allez pouvoir citer des gens dans cet article, vous allez pouvoir vraiment le mettre en avant, même le transformer en bouquin gratuit. Moi, j'ai déjà fait ça, hein. Des articles de qualité, 2500 mots, etc. Je les transforme en bouquin gratuit après. Voilà. Alors, les articles SEO ne sont pas inutiles non plus, hein. Comme je le disais, ça permet d'avoir des visites en fait quand on est sur des expressions à faible volume ou peu concurrentielles, ou alors quand on veut être présent sur des expressions qui sont plutôt liées à des mots de vos concurrents ou des choses que vous savez que les gens recherchent mais qu'on ne trouve pas dans les volumes de recherche de Google parce que c'est très ciblé, mais qui vous permettent de confirmer. Voilà. Alors, pour le bon article, au contraire, là, ça va pas forcément être un article de très. Enfin, le bon article va pas être un article qui est lié sur des mots-clés, mais plutôt sur un besoin ou sur une thématique en particulier. Et là, vous allez en fait répondre généralement aux questions 7W, c'est-à-dire why, when, how, etc., etc. En français, ça donne qui. Alors, vous répondez à la question qui a besoin, quelle est la cible, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Où? Sur le web, sur le site internet, etc. etc. Quand? Quand on lance son entreprise, blablabla. Comment? On fait ceci, cela. Combien ça coûte et pourquoi? Donc c'est cette question-là, c'est qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et combien. Ça vous permet de faire vraiment un super article et vous complétez après avec de la recherche sur internet, avec par exemple de la recherche documentaire sur des sujets en anglais. Voilà. Mon sixième conseil et avant-dernier conseil, c'est que la promotion est aussi importante que la création de contenu. Et ça, c'est surtout vrai pour vos super contenus. Ok, c'est si vous passez par exemple 3 heures à écrire un super article, mais vous en parlez pas, c'est totalement inutile. Il est important d'écrire un article de qualité et d'en faire un maximum de promotion. Moi, je l'ai vu, hein, au départ, je crée un article tous les jours et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus utile d'écrire non pas un article tous les jours, mais un article allez, tous les 2-3 jours. Et là, en fait, vous avez du temps d'écrire un super article, de faire un truc bien, chiadé, vous avez le temps de faire de la promotion. Tandis que si vous publiez tous les jours un article de blog, vous allez vous épuiser. Donc moi, je vous conseille plutôt d'écrire 1 à 2 articles par semaine, faire des super articles et passer du temps à le valoriser. Donc, comme je disais, mentionner les influenceurs dans le contenu, faire du guest posting sur d'autres blogs pour justement aller capter un petit peu d'audience. Donc la promotion au départ, c'est à peu près 25% du temps que vous allez penser à écrire un article. Si vous passez par exemple 3 heures à faire un super article, et bien vous allez passer au moins, on va dire, allez, entre 45 minutes et 1 heure à le mettre en avant sur Facebook, sur Twitter, à contacter des gens sur LinkedIn, etc., etc. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'était ne comptez pas sur votre blog pour attirer du trafic dans les 6 premiers mois. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir et beaucoup de gens se disent ok, je monte un blog, je vais avoir du trafic. Non, c'est fou. À moins que vous ayez vraiment un article de buzz, que vous ayez fait du guest posting et que vous ayez tout préparé, que vous ayez un réseau, ça va être compliqué au contraire. Il faut écrire sur votre blog, mais aussi être présent sur les carrefours d'audience parce que c'est là qui va ramener du trafic. Donc le guest posting, comme je le disais tout à l'heure, des interventions dans des groupes, travailler sur des livres blancs collaboratifs, faire des interviews d'influenceurs. Bref, votre blog au départ va pas du tout être visible, donc vous devez mettre en place des actions qui vont donner de la visibilité et qui vont vous permettre tout simplement de faire reconnaître à la fois par les prospects, mais également par Google, comme un blog de référence sur votre thématique ou sur votre cible. Alors autrement, pour mesurer en fait le résultat de vos actions, après c'est important aussi de le faire parce que parfois on se dit bah tiens, je vais publier sur LinkedIn, je vais publier sur Viadeo, je vais publier sur Facebook, je vais publier sur Twitter, donc je vais publier sur énormément de contenu, je vais passer beaucoup de temps à faire cette promotion, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Donc moi ce que je recommande, c'est d'utiliser bien sûr Google Analytics pour voir les sources de trafic et aller plus loin en utilisant des outils comme ClickMeter ou alors un petit changer que j'aime bien qui s'appelle Link Tracker qui permet en fait de faire un suivi des conversions. C'est-à-dire que vous allez voir combien de gens cliquent, et dans ces clics, ben, si c'est des gens ou si c'est comment dire, des moteurs comme des Google qui visitent tous les liens qui sont publiés sur Twitter. Parfois sur Twitter, je suis assez étonné, sur 30 clics qu'on a sur un lien, il y a à peu près une dizaine de moteurs de recherche qui sont les origines de ces clics-là. Donc 30 clics, on se dit waouh, Twitter ça cartonne à mort, mais sur 30 clics, en fait, vous en avez 10 au moins. Qui sont de moteurs de recherche, donc qui ne sont pas des vraies personnes. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qui visite et ensuite la conversion. Est-ce que ça convertit en livre blanc? Est-ce que ça convertit en prospect? Est-ce que ça convertit en vente? Etc. etc. Et là justement avec des outils comme ClickMeter, Link Tracker, etc. vous allez pouvoir avoir la réponse. Voilà, donc ça c'était donc les 7 conseils que j'ai mis en place hein, et que j'ai donné à Mehdi de Blog Booster, donc en un seul mot, blog et booster avec er.fr. Voilà, allez, à bientôt!